d'économie.
Au sommaire, un réseau de télécommunications interbancaires installé à la Banque Centrale du Congo est connecté à toutes les banques commerciales, la Direction du Trésor et la Direction de l'ordonnancement du ministère des Finances. C'est dans le cadre du projet de développement des infrastructures, des finances et de marché. Exploitation clandestine de l'or par des Chinois dans les territoires de Djougou et ses nombreuses conséquences négatives déjà ressenties. Pour qui travaillent-ils, ces Chinois? Delvey Waïsala nous les dit dans un instant. Et focus sur la province du Nord-Ubangi, c'est la suite de notre dossier consacré aux provinces issues du démembrement. Bonsoir. La mise en place d'un système national de paiement prend de plus en plus corps en RDC. La première composante du projet de développement des infrastructures financières et de marché qui prend en charge cette structure avance sans désemparer. Une délégation constituée de la Banque Centrale du Congo, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, structure du ministère des Finances et le directeur général de Standard Telecom a fait le tour de quelques banques commerciales de Kinshasa pour se rendre compte des infrastructures de télécommunications interbancaires. Daniel Tamizoni nous donne plus de détails.
Le projet de développement des infrastructures financières et des marchés est un projet du gouvernement de la RDC financé à hauteur de 30 millions de dollars américains par la Banque mondiale. Ce projet comprend trois composantes dont la première consiste à la modernisation de l'infrastructure des systèmes de paiement pour une finance inclusive. C'est dans ce cadre qu'un réseau de télécommunications interbancaires à fibre optique vient d'être installé au siège de la Banque centrale du Congo. Ce réseau est connecté à 19 banques commerciales agréé, la direction du Trésor et la direction de l'ordonnancement du ministère des Finances. Le coordonnateur de la cellule chargée de l'exécution de ce projet, Alain Lungungu, explique la vocation de ce réseau à fibre optique.
Pourquoi mettre en place une telle infrastructure? Moi, je vais vous donner un petit exemple. Moi, en tant que coordonnateur de projet, il y a des paiements que nous faisons des fois à des clients qui sont à l'extérieur du pays. Et nous recevons souvent des plaintes suite au délai que ça prend. Il y a des fois où ça vous prend plus d'une semaine, il y a des fois où ça vous prend 7 jours. Je crois que plusieurs d'entre vous ont déjà essayé de faire un virement entre Kinshasa, par exemple, et Paris. Vous verrez le temps que ça va prendre. Mais avec la mise en place de cette infrastructure, vous verrez que le délai va être sensiblement raccourci. Et normalement, ce sont des opérations qui vont se faire en temps réel. Et normalement, si jamais je dois faire le calcul, ça sera le même jour que vous aurez réalisé cette opération. Donc logiquement, ça va améliorer le vécu quotidien de nos investisseurs et améliorer aussi le climat des affaires.
Le deuxième volet de ce projet qui consiste à l'implémentation de la monétique interbancaire est en cours d'exécution et le réseau à fibre optique qui devra assurer la communication entre les banques commerciales est construit par la société Standard Telecom.
Et puis parlons de la présentation ce mardi à Kinshasa du plan de réponse humanitaire 2016. Un plan chiffré à 690 millions de dollars américains pour 7,5 millions de personnes dans le besoin. Mais faute de moyens, 6 millions d'entre elles seront prises en charge. Les agences de système des Nations Unies et le gouvernement congolais devront se mobiliser pour apporter encore plus d'assistance aux personnes en situation difficile. Nadine Foulansimba nous en dit plus.
Malgré les avancées enregistrées dans les rétablissements de la stabilité et renforcement des institutions étatiques sur une grande partie du territoire, une majorité du peuple congolais continue à faire face à la crise humanitaire. Ainsi, les plans d'action humanitaire 2016 cherche à mobiliser 690 millions de dollars américains, une somme quasiment identique à celui de 2015. Dr Mamadou Diallo, coordinateur humanitaire, plaide pour plus de mobilisation de fonds pour aider un plus grand nombre.
Le plan qui vous a été présenté cette année a été chiffré à 690 millions de dollars américains pour l'année 2016. Il me plaît de rappeler ici qu'au cours de l'année 2015, nous avions également sollicité nos partenaires pour un montant presque équivalent de 692 millions. Ce plan a été financé à hauteur de 65%, à savoir 450 millions de dollars. Nous espérons cette année que nous passerons la barre des 65% et nous atteindrons 80 ou 90% de financement.
De son côté, l'ambassadeur de France en RDC souligne que ce plan intervient dans un contexte difficile où la communauté internationale doit répondre simultanément à plusieurs crises. Alain Rémy, le nouvel ambassadeur de France en RDC.
Jamais la communauté internationale, au sens large, n'a été autant sollicitée pour répondre simultanément à un aussi grand nombre de crises dans le monde, crises politiques en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Crise liée aux catastrophes sanitaires et naturelles. Les besoins sont énormes et malgré leurs efforts, les bailleurs traditionnels ne sont pas en mesure d'y répondre.
Au gouvernement congolais, il a été demandé d'alléger les démarches administratives par la réduction des taxes y afférentes.
En Ituri, près de 40 hectares de forêt sont déboisés. Le lit de la rivière Ituri dévié et une route de dessert agricole est coupée dans la collectivité de Banyali Kilo, en territoire de Djougou, à plus de 70 km au nord de Bounia. Ceci est la conséquence de l'exploitation clandestine de leur part des Chinois. C'est les résultats publiés dimanche à Bounia par les députés et sénateurs ressortissants de l'Ituri au terme d'une mission qu'ils ont effectuée sur place le week-end dernier. D'où viennent ces étrangers et pour le compte de qui travaille-t-il? Tentative de réponse dans ce reportage de Delvin Waisala.
Ces parlementaires rapportent que l'objectif de leur mission était de vérifier la présence des Chinois dans la zone. Résultat, ils y font l'exploitation semi-industrielle de l'or avec des machines lourdes, notamment au groupement Buraki et Mabirinde, avec des conséquences sur l'environnement. Raymond Tchédia, député national.
Ils ont dévasté la forêt, ils ont dévasté l'écosystème sur une distance de plus de 15 km sur la rive gauche de la rivière Ituri. Et là où il travaille, il n'y a plus la vie. Aucun herbe ne peut pousser.
Le service des mines et de l'environnement en Ituri déclare que la gestion du dossier de ces Chinois leur échappe. Ils sont d'ailleurs gardés par des soldats et par des ceux. Le député Grégoire Lusenge confirme.
C'est devenu un domaine réservé où aucun agent de l'État ne peut y accéder. Nous nous sommes allés là-bas parce que nous sommes députés nationaux, tellement que leur secteur est militarisé.
La Sokimo reconnaît la présence des Chinois dans la concession de Mungwal Gold Mining MGM à Mungwalu à violation du code minier. Raphaël Malo, représentant de la Sokimo.
La Sokimo n'a pas de Chinois à Mongwalu dans la concession de MGM. Les Chinois qui sont là sont les Chinois qui appartiennent à quelqu'un.
Contacté, Guy Robert Lukama, le directeur général de Mungwalu Gold Mining, décline toute responsabilité dans cette affaire, ce qui laisse la question entière et sans réponse. Bounia, Delbert, Waïsala, Radio Capi.
Autre actualité, plaidoirie ce mardi au tribunal de commerce de Kinshasa dans l'affaire qui oppose Moïse Kabongo, un opérateur économique à EcoBank. Il est reproché à cette dernière de n'avoir pas payé les bénéfices générés lors de la vente des actions de cet opérateur économique. Au lieu de 5 800 $, il ne lui a été remis que la somme de 1 800 $ américains. On écoute Maître Pascal Mouteba, avocat de Moïse Kabongo, opérateur économique lésé par EcoBank. Ses propos sont recueillis ici par Nadine Foulantimba.
Cette affaire tient au fait que M. Moïse Kabongo, notre client, a signé la société EcoBank en responsabilité tant civile que contractuelle du fait qu'ils n'ont pas vendu ce part social alors qu'il avait constaté depuis un certain temps que les recettes ou les résultats de cette société chaque fin d'année, la société présentait qu'un résultat négatif à tel point que sa mise en termes de valeur dans les banques, dans les parts de la société EcoBank ne rapportait pas. Il a décidé que cette société vende ses parts sociales et la société n'a pas vendu dans le délai prescrit par le propriétaire des actions, M. Moïse Kabongo. Bon, vous saviez que le fait de signer un document qui lui a été proposé, effectivement, M. Moïse Kabongo a refusé de signer à bon droit. Ces formulaires présentés par la société EcoBank contenaient des clauses élusives. Qu'est-ce qu'on entend par clauses élusives? Ce sont les clauses par lesquelles une des parties au contrat s'engage par avance de ne pas supporter les conséquences d'une exécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation de droit.
Est-ce qu'il y a une perte ou dommage d'intérêt, comme vous l'avez dit?
Effectivement. Imaginez-vous un seul instant, M. Moïse Kabongo. Il a fait son investissement dans la société EcoBank depuis 2008 pour une valeur de 5 800 $ américains. Il se retrouve en 2016 aujourd'hui avec un montant de 1 800. Il y a là une perte suffisamment établie en dehors du fait qu'il continue maintenant à souffrir, à courir devant les cours des tribunaux pour obtenir réparation de ses préjudices. Nous demandons à la justice de sanctionner sévèrement la banque EcoBank, de dédommager M. Moïse Kabongo pour 500 000 $ américains. Et cette décision servira de guide, sinon de modèle.
Sachez que l'affaire a été jugée recevable et Maître Patrick Tamboué, avocat d'EcoBank, estime qu'il ne peut parler à ce stade où l'affaire est prise en délibéré. Le verdict sera rendu public à la huitaine. C'est un dossier à suivre.
Écho d'économie.
Pour terminer, la nouvelle province du Sud-Ubangi est une région enclavée avec un réseau routier délabré dont la porte d'entrée et de sortie de marchandises est le port de Businga. Cette province dispose d'une grande infrastructure, les barrages hydroélectriques de Mubaimbongo, qui doit être mis à contribution pour développer l'économie de cette contrée. Dominique Olombi Mongapangé,
nous a fait le point.
Cet ancien district devenu maintenant province du Nord Ubangi a une superficie de 56 644 km². Elle compte à ce jour une population d'1 255 000 habitants. Région d'origine de l'ancien président de la République, le maréchal Mobutu, le Nord Ubangi fait aujourd'hui figure d'enfant pauvre. La ville de Badolite, chef de province, qui a été pillée à la chute du régime de Mobutu pendant la guerre de l'AFDEL et la rébellion du MLC, n'attire plus personne avec ses immeubles à 70% inhabités. La production de maïs, de manioc, de haricots et de courges est beaucoup plus consommée sur place qu'évacuée vers Kinshasa par les ports de Businga sur la rivière Mongala. À l'exception du café et de l'huile de palme que viennent acheter les opérateurs économiques centrafricains, soudanais et camerounais, la longue frontière que le Nord Ubangi partage avec la RCA peut produire aux autorités provinciales des recettes de taxes d'importation et d'exportation, à condition d'y mettre des mesures efficaces de contrôle. Le grand atout du Nord Ubangi, c'est le barrage hydroélectrique de Mobayi Mbongo, situé à 25 km de Badolité. Cette centrale, qui fonctionne aujourd'hui avec une seule turbine sur trois, peut booster l'économie de cette entité, à condition que son courant alimente les territoires de Yakouma, de Bosobolo et de Businga. L'aéroport international de Badolité, l'un des plus grands du pays, qui reçoit à ce jour moins de 3% du trafic aérien par an, ne joue plus son rôle d'attente des désenclavements de cette contrée. Les chefs-lieux de la province du Nord Ubangi, Badolité, qui était la seconde capitale du pays sous le régime de Mobutu, est redevenu le grand village qu'il était avant que le maréchal Mobutu ne l'élève au statut de ville. Les nouvelles autorités auront du pain sur la planche pour faire de leur province une entité productrice. Mais il faudrait qu'elles maximisent les recettes et que leur rétrocède le gouvernement central. Mbandaka, Dominique Olombi Mongapange, Écho d'économie.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.